dans le podcast de la semaine dernière, 3 secrets pour être ouvert d'esprit, j'ai commencé par fustiger un petit peu le blog L'Internaute, et cette fois-ci j'ai choisi de refonder mon introduction. Alors regardez ce que pensait L'Internaute de la résilience, parce que c'est le sujet du jour, même si j'ai intitulé ce podcast « L'art d'accuser le coup face à tout ce qui arrive ». Or, je me réjouis parce que je peux mentionner ce qui est présenté sur le site L'Internaute en étant d'accord, puisqu'ils disent que la résilience est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie, capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Yes, voilà. Au moins, ça restaure un petit peu les choses. Donc, on peut s'arrêter aujourd'hui sur l'art d'accuser le coup face à tout ce qui arrive. J'ai bien dit à tout ce qui arrive et pas à quelques petites choses qui nous arrivent ou aux choses les moins difficiles. L'art d'accuser le coup à tout ce qui arrive. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre praticien en relation d'aide, et je vous accompagne chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux, que vous soyez résilient finalement. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Je me réjouis de me retrouver avec vous pour ce rendez-vous qui fait suite à notre podcast de la semaine dernière, même si aujourd'hui l'idée c'est l'art d'accuser le coup face à tout ce qui vous arrive. Si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière, ce serait vraiment intéressant que vous le fassiez pour comprendre les 3 secrets de l'ouverture d'esprit et que vous compreniez pourquoi j'aborde aujourd'hui la notion de résilience. Alors c'est un gros mot, c'est pourquoi j'ai pas voulu le mettre dans le titre, et je voudrais pas vous effrayer en vous disant qu'est-ce que c'est que ce truc, la résilience. Alors comme je l'ai dit en introduction, le site L'Internaute donne une définition assez, pour moi, très acceptable de ce qu'est la résilience. C'est pourquoi je l'ai mentionné. Même s'il y a parfois quelques, on va dire, ambiguïtés sur la manière de considérer la résilience. L'Internaute précise qu'il s'agit d'une réalité psychique pour les humains, mais la résilience n'est pas attachée qu'à l'humain, ni même qu'à l'animal. Elle peut être une capacité qui dépasse le psychisme et qui peut être une capacité à supporter les épreuves, supporter quelque chose que l'on vit. Je pense d'ailleurs à une histoire que nous avons tous abordée à l'école, le chêne et le roseau. Je ne sais pas si Jean de La Fontaine avait conscience de la puissance de cette fable quand il l'a rédigée, mais si vous l'avez apprise à l'école, elle aborde des aspects très enrichissants sur le plan de la langue, de l'image qui est utilisée, de l'imaginaire qui est utilisé dans cette fable. Mais moi, je voudrais l'utiliser par rapport à sa puissance psycho-émotionnelle qui est présente dans ce récit qu'on peut appeler la résilience. C'est qu'en réalité, je ne veux pas vous la raconter, et je vous mettrai le lien dans la transcription si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, ou si vous n'êtes pas de ceux qui avaient fréquenté les écoles de France, parce que vous êtes dans une francophonie qui est loin de la France métropolitaine, ou même d'homme ou Tom, mais que il est question d'un chêne et d'un roseau, et quand arrive la tempête, le roseau plie et le chêne casse. Vous avez constaté, je l'ai faite très courte. On est vraiment dans une approche dans laquelle on est en train de dire que le chêne n'a pas de capacité de résilience. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que un chêne, c'est quand même un arbre imposant. Ceux qui vivent dans le sud-ouest et dans des forêts de chênes vont vous dire non, pas forcément. Mais parce qu'effectivement, il y a des forêts de chênes dans lesquelles les chênes sont maigrissimes. Parce qu'ils sont en tellement grande population et tellement coincés les uns à côté des autres qu'ils ne sont pas imposants. Donc en fonction du chêne, de son implantation, on aura une approche du chêne bien différente. Moi qui habite Marseille, si vous venez faire une calanque avec moi en randonnée, je vous présenterai des chênes qui sont pas plus hauts qu'un buis, qui sont tout petits rikiki et avec des épines qui ressemblent plutôt à du hou. Ce sont pourtant des chênes. Donc, dans la fable du chêne et le roseau de Jean de La Fontaine, il a projeté un chêne comme on les connaît dans le centre de la France, comme on les connaît à Lyon, là où j'ai grandi, dans la campagne lyonnaise, des chênes qui, quand ils sont posés au milieu d'un pré, deviennent majestueux. Moi, le chêne qui était à côté de chez mes parents, Je l'ai escaladé, je l'ai gravi, on a fait de la balançoire, on allait presque mettre une cabane dedans. C'était impressionnant, même si quand je l'ai revu après que j'étais adulte, je l'ai trouvé bien plus petit que je ne l'avais dans mon imaginaire d'enfant. Les échelles avaient changé, je le reconnais. Mais donc, si on part sur le principe d'un chêne qui se trouve en plein champ, imaginez un tronc colossal, imaginez un feuillage énorme, des branches costauds. Et c'est bien d'un chêne de ce type-là qu'il est question dans cette fable, chêne qui se casse, qui brise quand vient le vent. Trop fort vent. Quand on veut être trop fort, trop résistant, trop costaud et qu'on oublie de vivre dans l'ouverture d'esprit, la capacité à accueillir ce qui vient, on peut casser. Je ne vous souhaite pas de casser, mais peut-être que vous êtes dans ce sentiment d'être brisé par des choses que vous avez vécues et pour lesquelles vous avez cherché à faire de la résistance. Vous aviez de la difficulté à accepter, vous aviez une peut-être image de vous qui disait « je serai forte, je vais tenir » et que vous avez vu que cette image n'avait que la force d'une image et vous vous sentez brisé. Je vous souhaite de prendre de la graine de cette expérience pour préférer adopter l'approche du roseau qui, face au fort vent, se met à plier, plie encore, plie plus encore, et qui, quand le vent s'arrête, se redresse et continue sa vie comme avant. Comment faire pour accuser le coup face à tout ce qui vous arrive? Comment faire pour adopter la stratégie du roseau pour éviter d'être brisé et de retrouver coupé en deux, cassé, par terre, avec votre devenir tellement en péril que la perspective consistant à pouvoir poser un espoir, un souhait, diminue. S'anéantit, s'annihile. La première chose qui m'est venue pour pratiquer l'art d'accuser le coup face à tout ce qui vous arrive, c'est d'apprendre à vous connaître. Et si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, vous vous dites « mais il est en train de faire de la redite ou quoi ?» Parce qu'effectivement, le premier point, le premier secret que j'ai évoqué la semaine dernière, c'était se connaître. Alors je ne vais pas le développer davantage, puisque je vais vous envoyer vers celui de la semaine dernière, à relire ou à réécouter, si vous préférez l'écouter en audio, pour aller comprendre les raisons de se connaître, qu'est-ce que je veux dire dans se connaître et qui peut faire que l'on va s'installer dans une résilience. Peut-être je pourrais rajouter juste aujourd'hui, c'est une chose que je n'ai pas approfondie la semaine dernière, c'est de se découvrir, d'être dans une action consistant à se connaître. Je vais travailler pour apprendre à me connaître, je ne vais pas juste flirter avec ce que je sais de moi. Je vais chercher à m'étudier, à m'observer, à m'apprendre. Une action proactive. Première étape, se connaître. Et je vous ai dit, j'irai pas plus loin. Écoutez le podcast de la semaine dernière ou relisez vos notes. Et si vous avez pris des notes, je dis bravissimo, bravo, hein, applause, clap, tout ce qu'on veut. Deuxième étape pour pratiquer l'art d'accuser le coup face à tout ce qui vous arrive, c'est l'entraînement. Le fait de vous entraîner à accepter, et je dirais premièrement, les choses qui vous paraissent petites. Mais ça veut dire que on est sur l'entraînement à accepter des choses qui, a priori, vous dérangent un peu. Il n'y a pas besoin de faire un entraînement pour accepter des choses qui vous rentrent dedans sans aucune difficulté. Donc, vous sentez que ça vous chagrine un peu, que ça vous pose question. Entraînez-vous, posez-vous des questions pour savoir qu'est-ce qui fait que ça me chagrine. Je veux travailler sur moi pour entendre ce qui se passe en moi. Quelles émotions s'agitent? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles veulent me dire sur moi? Je vois que ça me secoue. Pourquoi est-ce que je me sens secoué? Qu'est-ce qui pourrait faire que dans mon passé, dans mes croyances, dans mes pensées, dans mes valeurs, dans mes émotions, je me sens secoué? Qu'est-ce qui pourrait être changé pour que ces impressions de secousse, ces micro-séismes, ne se produisent pas en moi et que j'intègre ce que je vis, j'intègre ce qui m'est dit, j'intègre ce qui est exprimé, expérimenté autour de moi, dans mon cadre d'acceptation, sans difficulté particulière, juste même si j'ai senti un micro-séisme. Ça, c'est la deuxième étape pour l'art d'accuser le coup face à tout ce qui vous arrive. Troisième étape pour l'art d'accuser le coup, c'est d'ancrer une vision claire de la vie. Je sais que quand je pose cette question, la plupart des gens me regardent avec des yeux tout ronds, tout grands. Mais je vais vous la poser quand même. Quel est le but de votre vie ? Vous comprenez pourquoi certaines personnes ouvrent les yeux tout grands. Certains me disent, mais je n'ai jamais réfléchi à ça, je ne sais pas. Aucune idée, vraiment. Le but de ma vie ? Pourquoi ? Ce serait bien que j'ai un but à ma vie ? C'est des questions. Il y a quelques semaines, avec ma femme, on a fait cet exercice d'écrire le but de notre vie. Je vous propose de prendre votre cahier de vie et de l'écrire. Quel est le but de ma vie ? Vous savez combien de temps il m'a fallu pour écrire le but de ma vie ? Moins d'une minute. Tellement c'était évident. Alors je me suis amusé en disant à ma femme, « Est-ce que tu as écrit, toi, le but de ta vie ?» Parce qu'on avait parlé de le faire. « Oui, je l'ai écrit. Combien de temps t'a-t-il fallu pour l'écrire ?» Ben, c'est venu comme ça, spontanément, moins d'une minute. Évidemment. Et vous comprenez que, quand on sait vraiment quel est le but de sa vie, il y a des choses qui vont s'intégrer dans notre vie qu'on n'avait pas intégrées précédemment, et puis des choses qui vont gicler de notre vie, qui étaient là, mais qui n'ont pas leur place. Elles n'ont rien à faire là. Mais surtout, ça va servir de colonne pour garder le cap et pour le garder plus spécifiquement dans les tempêtes de la vie. Quand quelque chose nous tombe dessus, qu'une catastrophe, une crise existentielle, et que l'on sait quel est le but de sa vie, ben on a moins de chances d'être brisé. Pour ne pas dire que il est très rare ou très surprenant que quelqu'un qui a le but très clair de sa vie se voit brisé par ce qu'il vit. Il va vivre le roseau, plié, être secoué, tabassé dans tous les sens, jeté par terre à droite puis à gauche, et quand la tempête s'arrête, pouf, il va se redresser. Pas forcément à la verticale du premier coup, même s'il est encore dans l'oblique, il va progressivement se redresser dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre. Je vous invite à écrire le but de votre vie sur votre cahier de vie. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le cahier de vie, ça veut dire que vous n'avez pas écouté le podcast qui s'intitule « Rendez-vous avec vous-même ». Écoutez-le pour comprendre comment utiliser ce cahier de vie et toute la raison pour laquelle il est important d'écrire le but de sa vie. Quatrième chose pour vivre l'art d'accuser le coup face à tout ce qui vous arrive, c'est de savoir ou de croire quelque chose de fort. Par exemple, croire que les difficultés arrivent. Croire que j'ai la poisse va venir basculer dans le sens de l'arbre qui se brise et pas de la résilience. Alors que si je crois qu'il est tout à fait légitime que je vive des difficultés, que ça fait partie de mon processus de vie et de ce qui m'attend, eh bien, j'aurais une manière de voir et de vivre les choses différemment. J'ai un ami qui s'appelle Pierre, qu'ils se reconnaissent, qui quand il y a une difficulté, et que quelqu'un lui dit « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Il invite la personne à réfléchir autrement. Pourquoi vous ne vous demandez pas « Pourquoi et pourquoi pas moi ?» Comme si on était déjà prêt à ce que ça arrive à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ? On y est ouvert. Mais pas à soi. Quand vous vivez quelque chose de difficile, j'aimerais que vous vous disiez la même chose. Pourquoi pas moi ? Et du coup, ça vous permettra de vous inscrire dans une approche dans laquelle vous allez développer cette souplesse, cette forme de résilience, cette capacité à accueillir les choses, parce que vous vous êtes dit « pourquoi pas moi ?» Il n'y a pas de raison que ça arrive aux autres et pas à moi. Vous voyez que vous vous préparez finalement dans vos croyances à vous dire « tiens, je vais accepter les tempêtes. Il y aura des tempêtes, je vais être secoué, battu à droite, à gauche, et comme ça peut m'arriver à moi, parce que pourquoi pas moi ?» Ben, je vais faire face et je vais le vivre en toute tranquillité, en toute quiétude, sachant que je connais le but de ma vie, je le vois devant moi. Donc je pourrais me projeter clairement. Peut-être serait-il bienvenu que je dise qu'on peut l'accueillir avec la paix. On peut être secoué, malmené et l'accueillir en paix, avec sérénité, en fonction de nos croyances. Si je me dis, pourquoi moi ? C'est pas pareil que si je me dis, pourquoi pas moi ? Et du coup, j'accepte. Je plie et j'accepte. Cinquième chose, c'est de se projeter. Se projeter vers le fait qu'il y aura des tempêtes. Mais se projeter derrière la tempête. Une fois que la tempête sera terminée, puisqu'une tempête se termine forcément, il n'y a pas de tempête, d'ouragan, de tsunami, de tremblement de terre qui dure 3 ans, 5 ans, 20 ans. Donc il y a bien un moment où ça va s'arrêter. On a une expression en français qui dit le calme après la tempête. Donc se projeter sur cette post-tempête en disant « après la tempête, je me relève ». Après les difficultés par lesquelles je vais passer, je me relève. Après les secousses et les séismes qui ont frappé ma vie, je me relève. Après mon traumatisme, ma maladie, je me relève. Après ma crise financière, le fait que j'ai perdu mon emploi, que j'ai été licencié, je me relève. Après la fissure de ma maison, le fait que j'ai perdu tout ce que j'avais placé en économie, je me relève. Et vous avez remarqué que ça fait plusieurs fois que je vous dis « je me relève » et que je le dis au présent de l'indicatif. Je vous ai pas dit « je me relèverai ». Parce que le futur n'existe pas. Et si je parle au futur, je n'ancre rien de réellement profond acté dans mon quotidien. Par contre, si je le dis au présent, j'ancre maintenant, ici et maintenant, quelque chose dans ma vie que je pourrais utiliser dans l'avenir. Mais je vais passer à l'ancrage ici et maintenant, au présent. Après ça, je me relève. Après que j'ai vécu une difficulté conjugale énorme, je me relève. Après que j'ai le sentiment d'avoir été trompé ou abusé, je me relève. C'est vraiment important de le conjuguer au présent. Peut-être prenez le temps sur votre cahier de vie d'écrire ça. Quoi que je traverse, je me relève. Je veux accuser le coup, ce qui fait que dès qu'une tempête sévit sur moi, je sais que je me relève. J'ai le pouvoir de me relever. J'ai le potentiel pour le faire. Et les compétences que je n'ai pas, les atouts et les outils que je ne connais pas, j'irai les chercher. Je vais les chercher parce qu'il est clair et net que pour moi, je me relève. Si vous entrez dans une manière de fonctionner qui est « je me relèverai en fonction de la manière dont les choses auront été », vous subissez les événements, vous mettez toute l'autorité dans ce qui vous arrive et vous verrez peut-être et vous aurez la difficulté à vous relever. Quoi qu'il arrive, relevez-vous. Accusez le coup face à tout ce qui vous arrive et dites-vous « je me relève ». Sixième moyen d'entrer dans l'art d'accuser le coup face à tout ce qui nous arrive, c'est d'ancrer une croyance très 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 forte à laquelle vous pouvez vous attacher, en plus de « je me relève », une croyance qui sera vraiment... votre, vraiment, incarné dans votre quotidien, que vous pourrez peut-être formuler régulièrement. Il y en a une qui m'est régulièrement mentionnée, qui est « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Elle me pose un problème, cette croyance, parce qu'en réalité, elle donne l'impression que ce n'est pas moi qui vais veiller à être plus fort, mais c'est la chose que je vais vivre qui va me rendre plus fort. Et c'est faux. Donc il y a du vrai et du faux dans cette phrase. J'aurais préféré que cette maxime dise « je veux faire en sorte que ce qui ne me tue pas me rende plus fort. J'agis de telle sorte que ce qui ne me tue pas me rende plus fort. » Et vous comprenez que je le fais au présent. J'agis de telle sorte que ce qui ne me tue pas me rende plus fort. Je le rends possible parce que je vais me fonder sur mes ressources, mes capacités. Quand quelque chose arrive et ne m'a pas tué, je l'utilise pour me rendre plus fort. Et du coup, je me prépare. Comme dans l'entraînement dont j'ai parlé tout à l'heure, en deuxième étape dans l'art d'accuser le coup face à tout ce qui vous arrive, je me prépare à être plus fort. Je suis plus fort quand j'utilise quelque chose. Quelle que soit cette chose, quel que soit le drame, quelle que soit la maladie grave, l'accident de vie, quel que soit. Si je choisis de construire une croyance, je choisis que ce qui ne me tue pas me rende plus fort, je travaille à me rendre plus fort. C'est pas le coup du hasard qui fait que finalement je suis devenu plus fort. C'est moi qui ai travaillé parce que je veux devenir quelqu'un qui utilise les événements pour me former, utilise ce que je vois pour apprendre, etc. Et finalement, finir par me dire, bah oui, j'ai utilisé ce que j'ai vécu pour devenir plus fort. Je n'ai pas reçu une force extérieure, je n'ai pas subi le coup de bol de devenir plus fort. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai produit. dans cette mentalité qui consiste à vouloir accuser le coup face à tout ce qui vous arrive. Je rappelle, 1. Se connaître. 2. S'entraîner à l'acceptation avec les petites choses. Puis après, vous pouvez passer aux moyennes, puis aux plus grosses. 3. Ancrer une vision claire de la vie. Quel est le but de votre vie? 4. Savoir que les difficultés arriveront. Et de vous dire, pourquoi pas moi? 5. Vous projeter vers « je me relève ». Je me relève. Quoi qu'il arrive, je me relève. Et enfin, adopter une croyance forte du pouvoir que vous avez, qui consisterait à se dire, voilà, je choisis que ce qui ne me tue pas me rende plus fort. Je comprends que c'est moi qui suis l'acteur de ma construction, même si je suis le co-acteur, parce que j'ai invité d'autres à collaborer dans ma construction. Mais c'est moi qui détermine, c'est moi qui pilote, c'est moi qui ai la vision. À partir de, notamment, la vision claire de la vie, le but que je me suis fixé, qui me permet de garder le cap dans quoi que j'ai à traverser. Vous avez ces 6 éléments pour appliquer l'art d'accuser le coup face à tout ce qui vous arrive. Pratiquez l'exercice maintenant, là. Allez-y, c'est parti, on a terminé le podcast, vous y allez, vous vous entraînez, après avoir pris le temps d'apprendre à vous connaître. Je vous rappelle que dans le podcast L'Image de Soi, vous avez un exercice offert à télécharger pour apprendre à vous connaître, mais qu'on on est dans une démarche proactive consistant à chercher à apprendre à se connaître pour pouvoir utiliser cette réalité dans votre quotidien. Réécoutez ce podcast si nécessaire, allez puiser dans celui de la semaine dernière, notamment pour mieux étayer ce que veut dire se connaître, première étape que je n'ai pas développée parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai abordé la semaine dernière, et vivez-le de manière pratique. Bien évidemment, discutez avec des gens qui vous entourent de ce que vous avez découvert. Peut-être faites-leur découvrir heureux au présent. Je ne pourrais pas vous retenir de le faire, si ce n'est de vous encourager, s'il vous plaît, à le faire. Mettez vos commentaires, vos avis, vos 5 étoiles et tout ce que vous savez déjà pour faire en sorte de vivre votre vie en mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.